traduction. Et d'une bonne traduction, qui évite deux excès, un littéralisme excessif qui colle au texte jusqu'à le rendre obscur, et puis une trop grande liberté par rapport à ce même texte. Et qu'une bonne traduction est un compromis entre différentes exigences. La première, donc, bien sûr, fidélité au texte. La deuxième, que ce soit quand même lisible dans la langue réceptrice, dans la langue dans laquelle vont la lire ceux auxquels la traduction est destinée. Et puis, on pourrait dire aussi, troisièmement, qu'elle soit claire et compréhensible. Voilà finalement les trois exigences contradictoires, il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas, auxquelles le traducteur se trouve confronté, ce qui fait que finalement une traduction correcte, disons, est un compromis entre ces trois exigences. Il est bien entendu que une bonne traduction dépend aussi, bien sûr, du talent des traducteurs, ça va de soi, et aussi que, les traducteurs insisteront sur une de ces trois exigences plus que sur une autre. Certains insisteront plus sur l'exigence d'une traduction fidèle, d'autres sur l'exigence d'une traduction agréable à lire, d'autres sur le style littéraire, etc. Par conséquent, choisir une traduction, c'est aussi choisir ce que l'on cherche, ce que l'on veut. Si l'on veut avoir vraiment une traduction qui sert le texte, alors il faudra prendre une traduction comme Chouraki, comme Darby, tout en sachant très bien que le style, évidemment, et la compréhension vont en souffrir, et que ce sera très, très difficile de comprendre d'une manière très claire. Ceux qui veulent vraiment quelque chose de littéraire, eh bien, choisiront la traduction de la Pléiade ou bien la traduction de Synodal, qui, contrairement à ce que je disais la dernière fois, est encore disponible, d'après ce que m'a dit Patrick après l'étude de la dernière fois. Et puis, ceux qui recherchent une traduction qui sera au contraire plus simple, bien choisiront des traductions comme le français courant, etc. Maintenant, justement, il nous faut arriver à ces traductions modernes. Les traductions dites modernes, c'est-à-dire les traductions qui emploient un principe de traduction tout à fait nouveau, enfin, qu'ils disent être nouveau, du moins, qu'on appelle l'équivalence dynamique. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, le principe de l'équivalence dynamique consiste à traduire non pas des mots, mais des idées. Voilà, si vous voulez, l'idée de base. Traduire non pas les mots, mais les idées. Alors, évidemment, l'intérêt de ce principe, c'est qu'on va faire parler les gens de la Bible comme si c'était des Français du XXe siècle. Et partant, eh bien, on demandera au lecteur un minimum d'effort, ce qui va bien dans le sens d'ailleurs de la civilisation moderne, hein, où on demande le moins possible d'effort aux gens. Minimum d'effort dans le sens qu'il n'aura pas à entrer dans une autre culture, ou en tout cas peu dans une autre culture, avec un vocabulaire qui lui sera familier, avec des idées, des concepts qui lui seront familiers, et par conséquent, il n'aura pas l'effort à faire d'entrer dans une culture différente, dans un monde différent, dans une histoire différente, en bref, lui rendre la tâche le plus aisée possible. Alors, quand, par exemple, il s'agit de mettre la Bible à la portée de peuples dont le français n'est pas la langue maternelle, par exemple comme des Africains ou des choses comme ça, bon, on peut comprendre jusqu'à un certain point cette méthode. Seulement, cette méthode a aussi de très très gros désavantages. Et le gros désavantage, c'est qu'il y a un risque énorme d'une trahison du texte. Nous avons dit la dernière fois que traduire, c'est trahir. Bien sûr, c'est excessif, mais il y a un peu de vrai. Et si traduire, c'est trahir le texte jusqu'à un certain point, bien entendu, il ne faut pas le trahir trop, et en tout cas lui faire de contresens. Alors, si vous voulez, les traducteurs qui emploient la méthode de l'équivalence dynamique essayent de faire en sorte qu'ils comprennent, n'est-ce pas, bien le sens de ce qu'ils ont, du texte de base, du texte à traduire, et ensuite ils le restituent, après l'avoir ingéré, ingurgité, digéré, hein, ils le restituent dans la langue réceptrice. Alors, parfois, ça peut être intéressant. Mais s'ils sont à côté, ils sont à côté. Et puis alors, évidemment, là, le gros problème, c'est que on sort d'une fidélité au texte. Là, automatiquement, il n'y a plus du tout la fidélité au texte. Et je vais vous donner quelques exemples pour expliquer ce que je dis là. Premier exemple, tiré de la Bible en français courant, parce qu'en français, en France, il y a deux traductions qui suivent ce principe pour l'heure, essentiellement deux traductions, la Bible dite en français courant et la Bible dite du semeur, dont M. Kuhn est le traducteur principal. Et la Bible en français courant, là où l'hébreu, n'est-ce pas, a souvent au début des psaumes une expression « l'amenatsear ». Alors on traduit cette expression par « au chef de chœur, au chef des chantres, second », chef de chœur c'est la colombe, on peut rétraduire « chef d'orchestre », etc. Alors voilà comment traduit, ou a essayé de traduire en tout cas au début, le français courant. Ce psaume, là où il y a tout simplement un mot en hébreu, hein, « l'amenatsear », c'est tout, en hébreu il y a un seul mot. Eh bien, le français courant traduit comme ça. Ce psaume appartient au recueil du chef de chœur et au recueil de David. Voilà. Alors, vous voyez que c'est très différent de au chef des chantres. Alors, ce n'est pas obligatoirement faux. Parce qu'effectivement, l'amenatsear peut se comprendre de différentes manières. Il peut se traduire effectivement par « au chef de chœur » ou bien « du chef de chœur » composé par le chef de chœur ou bien « dédié au chef de chœur » et effectivement appartenant à un recueil qui a été composé par le chef de chœur. Mais si vous voulez, là, on fait un choix. Remarquez, dans toute traduction, on est obligé de faire un choix. Mais un choix, si vous voulez, que l'on donne comme le bon. Tandis que les traducteurs qui font un choix, en général, surtout quand ça touche à des choses importantes, ont l'honnêteté de mettre une note en disant, eh bien, nous avons traduit comme ça, mais on peut aussi comprendre de telle manière. Tandis que ceux qui traduisent par l'équivalence dynamique, en général, disent, voilà la traduction vraie. Voilà comment il faut comprendre aujourd'hui, au XXe siècle, fin du XXe siècle, en France, voilà comment il faut comprendre ce texte. Alors, si c'est bien, c'est bien. Si c'est faux, on est à côté. Maintenant, même si vous voulez, quand on prend des traductions de ce type-là, et là, on voit tout de suite qu'on rejoint beaucoup plus le domaine de l'interprétation que de la traduction. On est plus dans le domaine d'une interprétation, donc avec tout ce qu'il peut y avoir de subjectif dans une interprétation humaine, que dans une authentique et dans une véritable traduction. Par exemple, vous avez dans une version anglaise, qui est la traduction d'un certain Phillips, n'est-ce pas, laisse une grande part à la subjectivité. Par exemple, nous avons cette expression dans une des épîtres de Paul, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Alors, les traducteurs de la version Phillips ont pensé sûrement que c'était une pratique désuète aujourd'hui en Angleterre. Elle date déjà de quelques années, cette traduction-là. Et alors, ils ont traduit de la manière suivante, ceux qui comprennent un peu l'anglais, « shake hands around ». Comment est-ce qu'on peut traduire « donnez-vous une poignée de main ». Okay. Au lieu de « saluez-vous par un saint baiser », « donnez-vous une poignée de main ». C'est pas pareil, hein. Là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment une interprétation subjective. Bien sûr, vous allez me dire, la pratique de donner une poignée de main ne se pratiquait pas à l'époque de la Bible. Justement, raison de plus. Raison de plus, je dirais, pour ne pas traduire comme ça. Seulement, il faut à tout prix être moderne. Il faut être à tout prix, si vous voulez, ne pas dépayser le lecteur, partir, comme on dit aujourd'hui, de son vécu. Vous savez, c'est la grande tarte à la crème, partir du vécu. Et alors que précisément, parfois, les gens ont besoin d'exotisme, au contraire. Ça fait du bien de se sortir un petit peu de la banalité quotidienne. Si c'est pour retrouver la banalité quotidienne, eh bien, finalement, c'est pas toujours non plus un bien. Alors, vous avez des choses qui sont parfois extrêmement graves dans ce domaine. Autre exemple, dans la Bible en français courant, c'est d'ailleurs Marc qui avait attiré mon attention sur le fait, vous savez, dans le texte où il nous est dit que Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est l'annonce de l'ange à Zacharie, son père. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Puis, au moment où Marie vient visiter Élisabeth, qui est enceinte de 6 mois, il nous est dit qu'au cri, à l'ouïe de la salutation de Marie, l'enfant, donc Jean-Baptiste, tressaillit de joie dans le sein de sa mère. Eh bien, la version en français courant traduit dès que le bruit de ta salutation a retenti à mes oreilles, j'y traduisais autrement que ça, parce que retentir aux oreilles, ça, c'est pas une traduction moderne, l'enfant a remué dans mon sein. Vous voyez ? L'enfant a remué dans mon sein. Alors, c'est quand même très différent. Parce que, quoi de plus banal qu'un enfant à une grossesse de 6 mois qui remue dans le sein de sa mère ? Je sais pas, c'est pas Olivier qui va me contredire. Bon. Par contre, un enfant qui tressaille de joie par le Saint-Esprit, dans le sein de sa mère, c'est quand même autre chose. Et alors, on peut se poser la question, est-ce que le but de cette traduction n'est pas de laisser supposer qu'un enfant qui n'est pas encore sorti du sein de sa mère n'est pas un enfant, n'est pas un être humain, et voyez immédiatement la porte ouverte possible à l'avortement. Oui, c'est pas anodin. Il y a des choses qui sont parfois calculées. Alors, là, bon, il y a parfois des choses intéressantes. Il est certain que parfois, quand on a du mal à comprendre un texte, recourir à une bonne version d'équivalence dynamique peut éclairer. Je dis peut éclairer. C'est à manier avec beaucoup de précautions. Mais ça peut éclairer parfois. Mais faut-il encore prendre une bonne traduction dans ce domaine-là ? Et si le français courant, mis à part des grosses erreurs comme celles que je viens d'évoquer il y a un instant, est relativement intéressante, encore une fois, à condition de la manier avec beaucoup de précautions, alors le semeur, là, je la déconseille totalement, parce que même sur le plan de la méthode de l'équivalence dynamique, qui est extrêmement discutable, elle est mauvaise. Par exemple, il y a un texte qui est toujours extrêmement difficile à traduire, c'est la première béatitude, heureux les pauvres en esprit. Bon, il est bien évident que traduire comme ça, ça peut être un contresens total. Pauvre en esprit, donc les gens un petit peu demeurés, les gens un petit peu bêtes, les gens un petit peu simplés, c'est à eux que le royaume de Dieu est promis. C'est pas ça, bien sûr. Et on sait notamment depuis les textes de Qumran, n'est-ce pas, que les pauvres en esprit signifient tout simplement les humbles. Hein, ceux qui ont un esprit de pauvre, ceux qui ont un esprit humble, qui ne sont pas orgueilleux, qui ne sont pas imbus d'eux-mêmes et qui en même temps sont aussi dans une pauvreté. Bon, c'est pas facile à traduire, je reconnais. Eh bien, voilà comment traduit M. Kuhn, « Heureux ceux qui savent qu'ils sont spirituellement pauvres. » Alors, on est compte. Ça veut dire quoi ? Ceux qui sont spirituellement pauvres, ça veut dire ceux qui sont médiocres spirituellement. Ça veut dire les gens qui ne marchent pas bien avec Dieu. Donc, comme je lui ai écrit, c'est l'Odyssée. L'Odyssée qui ne sait pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue, spirituellement parlant. Heureuse l'Odyssée parce que le royaume des cieux est à elle. Mais enfin, c'est aberrant. Comment est-ce qu'on peut traduire quelque chose comme ça ? Alors évidemment, toutes ces traductions dites modernes et à équivalence dynamique éliminent les mots qui leur sont désuets. Par exemple, le mot repentance. Ah, alors là, le mot repentance. Alors vous avez des choses curieuses. Changer de vie, par exemple. Bon, que le changement de vie soit une des conséquences de la repentance, c'est évident. Mais la repentance, c'est bien plus que de changer de vie. On peut changer de vie sans se repentir. On peut changer de vie tout simplement parce que on change de lieu de résidence et automatiquement ça vous change la vie. On peut changer de vie si on en croit certaines publicités parce que tel et tel gadget que vous allez acheter, eh bien, va vous changer la vie. Alors, l'idée fondamentale, qu'est justement l'idée de la repentance, qui est une des idées clés, un concept clé de la parole de Dieu. Eh bien, voilà qu'il est éliminé. Motif, parce qu'on ne le trouve plus dans les dictionnaires modernes. Et comme j'écrivais à M. Kuhn, mais enfin, dans la langue courante, on dit, n'est-ce pas, il s'en repentira. Hein, pour dire, ça va, il va le regretter. Bon, c'est plus que regretter, repentir, d'accord, mais c'est ça aussi. Alors qu'on ne vienne pas me dire que l'homme moderne ne comprend pas le mot repentance, et quand bien même il ne le comprendrait plus. Eh bien, mettons une note pour expliquer. Enfin, quand on compulse un ouvrage de médecine, il y a un vocabulaire technique, il faut l'acquérir, il faut acquérir un minimum pour comprendre. Quand on aborde un poète quelconque, il a son vocabulaire, il faut se familiariser avec. Et la Bible, ce serait le seul livre duquel, n'est-ce pas, on l'aurait à l'aborder sans effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception-là ? N'est-ce pas ? Mais c'est la vision moderne, plus d'effort en rien. Alors, bien entendu, pas d'effort pour se repentir, ça va de soi. Et comme j'écrivais à M. Kuhn, et à quand donc allez-vous éliminer le mot péché ? Car qui comprend encore le mot péché aujourd'hui ? Ou en tout cas, qui veut le comprendre ? Ah, il était un peu gêné, là. Il était un peu gêné. Mais on y viendra, patience. Hein ? C'est sûr qu'on va y arriver. Et puis voilà, ça continue comme ça. Alors, on arrive à une espèce de Bible complètement émasculée, fade, sans saveur, où, n'est-ce pas, il n'y a plus qu'une espèce une vision spirituelle horizontale, où, par exemple, toutes les mesures sont converties en mètres, en des choses comme ça. Bon, ça, encore, à la limite, je veux bien. Mais enfin, c'est quand même... Il vaudrait mieux mettre ça en note, disant, bon, ben, tant de stades égale tant de mètres. C'est quand même pas comme ça qui comptait à l'époque biblique. Comptait pas en mètres, tout de même. Hein? Alors, voilà, ça, ce sont les traductions à l'équivalence dynamique, et qui ont ce gros ennui, n'est-ce pas, ce gros problème, c'est qu'ils sont basés sur une déstructuration, finalement, de la parole de Dieu. Alors là, nous n'avons plus du tout un texte fidèle, plus du tout. Et alors, si vous voulez retrouver des choses précises, n'est-ce pas ? Parce qu'on sait combien, parfois, un mot a une importance dans la parole de Dieu. Un mot. Mais vous ne retrouvez plus le mot, vous retrouvez des idées. Alors évidemment qu'on arrange parfois un peu la tournure des phrases, qu'on ne colle pas au littéralisme, je suis d'accord. Qu'on arrange la tournure des phrases, qu'on emploie des expressions, par exemple, que si on ne peut pas traduire directement de l'hébreu ou du grec une expression qui est un idiotisme dans cette langue, bon, ben, effectivement, qu'on essaie peut-être de trouver un idiotisme français qui rende ça bon, je ne suis pas contre. Mais que ce ne soit pas quelque chose de systématique, que ce ne soit pas quelque chose qui automatiquement, n'est-ce pas ? Puis, vous savez, il y a un désir de faire original dans ces choses-là. Il y a un désir de montrer que on renouvelle le texte, etc. On redonne aux gens le goût d'une lecture qu'ils ont perdue. Enfin, toutes sortes de tartes à la crème qui interviennent à ce niveau-là. Alors ça, c'est la dernière étape en date. Mais ce n'est pas la dernière qui va venir, parce qu'on nous en promet d'autres et des meilleures. Et... la nouvelle tarte à la crème, ce sont maintenant remodeler le texte biblique. D'ailleurs, je note aussi un point de détail qui n'est pas sans importance. Jusque maintenant, tous les traducteurs de la Bible, quels qu'ils soient, catholiques, protestants ou autres, que ce soit des libéraux, que ce soit des Darby comme Darby des fondamentalistes, c'est pas, s'en étaient toujours tenus au texte massorétique. On aura l'occasion de revoir ce que c'est que le texte massorétique, c'est-à-dire le texte reçu par les Juifs, n'est-ce pas, qui a été publié par les rabbins à la fin du 1er siècle et qui est le texte officiel de la synagogue, dont les rabbins ont éliminé les erreurs de copistes, les erreurs d'interprétation et choses semblables. Bon, donc c'était pour le peuple d'Israël le texte le plus sûr. Bien, maintenant évidemment, on peut penser parfois, et encore que ce soit très discutable, au vu des découvertes des savants israéliens qui ont travaillé à partir de ce texte massorétique et qui ont constaté qu'en changeant une seule lettre, eh bien tout l'édifice, vous savez, de la structure mathématique de la Bible s'effondre, et que par conséquent le texte massorétique est un texte sûr, comme le disait M. Gridac, n'est-ce pas ? Mais enfin, bon, admettons que parfois les copistes aient fait quelques erreurs. Bon, peut-être. C'est vrai qu'il y a des textes parfois un peu difficiles à comprendre, chez Job, par exemple, ou dans certains psaumes, desquels on peut penser que peut-être là, les copistes ont pu oublier quelque chose. Bon, peut-être. Alors, à ce moment-là, bien sûr, comparer d'autres traductions. Par exemple, la traduction des Septante, ou bien les manuscrits de Qumran, ou bien la traduction latine de Jérôme, ou bien des choses comme ça, des anciennes versions coptes, arméniennes ou autres, bon, peut nous amener à dire, eh bien, ça doit vouloir vraisemblablement dire ça. Bon, en général, quand c'est comme ça, on le met en note. On dit dans texte obscur, mais la traduction des Septante l'a compris de telle manière. Mais jamais aucun traducteur ne s'est permis de corriger le texte massorétique à partir de ses anciennes versions, ou à partir des textes de Qumran. Pour la première fois dans toute l'histoire de la traduction, M. Kuhn s'est arrogé ce droit. Et nous avons constamment, n'est-ce pas, bon, il a l'honnêteté quand même de mettre en note que le texte massorétique met autrement, mais dans le texte lui-même, le texte de sa traduction, il introduit des variantes qui viennent des Septante, qui viennent de Qumran, qui viennent de droite, qui viennent de gauche, n'est-ce pas, donc il corrige les erreurs supposées des copistes. Au nom de quoi ? Eh bien, au nom de sa science à lui, au nom de la compréhension qu'il a des choses. Donc, si vous voulez, il touche au texte inspiré. Il touche au texte inspiré. Alors ça, encore une fois, c'est la première fois qu'on trouve un phénomène de ce genre. Personne ne s'était arrogé ce droit jusque maintenant. Alors, et vous, on va de plus en plus loin. Et maintenant, la nouvelle tarte à la crème, c'est ce qu'on appelle les traductions inclusives. Qu'est-ce que c'est que les traductions inclusives ? Eh bien, c'est justement les traductions qui vont entrer dans un contexte culturel donné. Parce que dans une certaine culture, il faut évidemment traduire les idées, mais plus que les idées, et faire en sorte que, si vous voulez, des vieilles idées d'un autre âge ne viennent pas interférer avec, finalement, les idées modernes, puisque finalement, tout se vaut, il n'y a pas de vérité. L'idée de base est celle-là, il n'y a pas de vérité. Et finalement, l'idée, c'est que la Bible n'est pas plus inspirée qu'autre chose. Ou en tout cas, pas moins qu'autre chose, en tout cas. Et par conséquent, on peut s'affranchir à fond du littéralisme pour, introduire à fond la Bible dans notre culture. Alors, par exemple, il n'est évidemment pas question aujourd'hui de faire une lecture sioniste de la Bible. Ça va de soi. Il est bien certain que interpréter littéralement les prophéties sur le retour à Sion, ou bien sur la reconstruction de Jérusalem, ou sur le rassemblement du peuple juif, c'est une abominable hérésie. Ça va de soi. Seulement, il y a un problème, c'est que les prophéties parlent de ça. Elle parle de Sion, elle parle de Jérusalem, elle parle du peuple d'Israël. Alors, les tenants des traductions inclusives ont trouvé la solution. Eh bien, là où il est question de Jérusalem, là où il est question d'Israël, là où il est question de Sion, on remplace ces mots, tout simplement, par « le peuple de Dieu ». Voilà, et le tour est joué. Alors, le peuple de Dieu, ça peut être l'ancien peuple de Dieu, le peuple de Jérusalem, mais ça peut être aussi le nouveau peuple de Dieu. Alors ça a un très gros avantage, c'est que les chrétiens arabes peuvent lire cette Bible-là sans que ça les choque, sans que ça remette en question leur antisémitisme et leur antisionisme. Voilà, le but de la manœuvre est là. Autre type de traduction inclusive, eh bien, la Bible, disent certains, est très sexiste. Et, comment dirais-je, macho, antiféministe, etc., etc. Et comme on vit au siècle du féminisme, et comme ces dames supportent de plus en plus mal, n'est-ce pas, cette vision patriarcale de la Bible, eh bien, il faut changer tout ça. Alors, certains, ou certaines plus exactement, sont allés très loin dans ce domaine, jusqu'à dire « Notre mère qui est aux cieux ». Bon, ça va quand même loin. Mais alors, on essaie de faire en sorte que de traduire par quelque chose qui soit neutre, qui soit ni masculin ni féminin, pour que ces dames du MLF ne se sentent pas lésées. Alors, par exemple, on ne traduira plus que Dieu créa au début l'homme et la femme, que Dieu les créa mâle et femelle, mais on dit qu'il les créa être humain. Voilà. Comme ça, au moins, être humain, on peut être humain tout en étant homme comme en étant femme. Seulement, il n'y a qu'un malheur, c'est que la Bible, justement, insiste sur ce point-là, sur le fait que Dieu les a créés sexués. Ça, c'est complètement évacué d'une traduction comme ça, bien entendu. C'est justement, d'ailleurs, le but de la manœuvre. Vous trouverez, bien entendu, alors là, sur les questions du voile ou les questions semblables, alors bien entendu, là, n'en parlons pas. On fait des tours de passe-passe inimaginables, extraordinaires, pour pouvoir dissimuler tout ça. Même chose en ce qui concerne les textes de Corinthiens sur les prophéties ou des choses comme ça, les prophètes. Bon, enfin, les prophètes, qu'est-ce que ça veut dire le prophète aujourd'hui ? Qu'est-ce qui comprend encore le mot prophète ? Alors on vous traduit comme ça, quelqu'un qui donne des messages inspirés. Alors des messages inspirés, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une prédication inspirée. Ça peut être... mais tout sauf une prophétie. Le parler en langue, ce sera donner des messages aussi, dans des langues étranges, enfin, des traductions qui montrent le subjectivisme des traducteurs. Un traducteur qui est, par exemple, comme M. Kuhn, anti-charismatique, eh bien, va vous traduire tous les textes des Corinthiens relatifs au charisme de telle manière que, eh bien, on ne puisse pas en faire une lecture charismatique, justement. Mais on en fera une lecture anti-charismatique. Alors, vous aurez bientôt des Bibles pour les milieux anti-charismatiques, vous aurez des Bibles pour les milieux charismatiques, vous aurez des Bibles pour les milieux féministes, vous aurez des Bibles pour les milieux antisionistes, vous aurez des Bibles pour... etc., quoi, hein, pour les milieux baptistes, et vous aurez des Bibles pour les milieux pédobaptistes. Enfin, voilà, quoi. Chacun va avoir sa petite Bible à lui. Alors, je disais... il y a une vingtaine d'années, quand nous avons traduit la Colombe, je disais, mis à part la traduction des témoins de Jéhovah, qui a largement usé et abusé de ce genre de procédé, n'est-ce pas ? Je disais, il n'existe pas aujourd'hui sur le marché français de Bible malhonnête. Il existe des Bibles qui sont traduites d'une manière plus ou moins heureuse. Bon, ça c'est autre chose. Mais les traducteurs, quels qu'ils soient, catholiques, protestants ou autres, ont essayé d'être honnêtes, de traduire honnêtement. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment des Bibles qui sont malhonnêtes. Peut-être pas que l'honnêteté, si vous voulez, des traducteurs est en elle-même à suspecter. Peut-être que ces gens-là croient véritablement qu'ils ont raison de faire comme ils le font. Mais le résultat, je ne mets pas en cause, si vous voulez, l'honnêteté des traducteurs eux-mêmes en tant que personnes, mais leur travail... et finalement un travail malhonnête. Peut-être sans qu'ils l'aient cherché, peut-être sans qu'ils en soient conscients, mais le résultat est là. c'est un travail qui est un travail malhonnête parce que c'est un travail sur lequel ils ont projeté leur propre subjectivité. Alors ça, c'est extrêmement grave. Donc, si vous voulez, quels seront les critères d'une bonne traduction ? Eh bien, une traduction doit être basée sur les équivalents les plus proches. C'est celle qui présente le plus clairement les idées de l'auteur. Et puis, non seulement les idées de l'auteur, mais qui en même temps les restitue dans la manière et comme elles ont été écrites. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit cela. Il dit, ces choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Qu'est-ce que vous voulez, Jésus ne faisait pas d'équivalence dynamique. Et les apôtres non plus. Je citais tout à l'heure l'expression « les pauvres en esprit ». Bon, quand vous traduisez ça en grec, vous lisez ça en grec, pour un grec, ça veut rien dire de plus que pour nous. Il fera la même erreur que nous quand nous lisons en français « les pauvres en esprit ». Par contre, si vous traduisez en hébreu « ani ruach », alors c'est très clair. Ça prouve quoi ? Ça prouve que ceux qui ont traduit les paroles de Jésus en grec avaient un tel respect pour les paroles de Jésus qu'ils les ont traduites littéralement, quitte à en obscurcir le sens pour les lecteurs grecs. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, je pourrais en prendre des centaines d'exemples comme celui-là, qui montrent que les traducteurs... Les premiers traducteurs, donc des paroles de Jésus, donc les auteurs des évangiles, nous ont gardé littéralement les paroles de Jésus, quitte, encore une fois, à en obscurcir le sens pour le lecteur. Et je dirais, combien c'est heureux qu'ils ont fait ainsi, parce que maintenant, justement, on peut retraduire ces paroles en hébreu et en avoir une compréhension beaucoup plus grande. Alors, si les auteurs bibliques inspirés ont eu ce respect et ce scrupule-là. Bien, peut-être que les traducteurs modernes devraient eux aussi s'en inspirer. En son temps, quand j'ai traduit la Colombe, j'étais plus jeune et je militais plutôt dans le comité de traduction en lequel je me trouvais pour une traduction plus libre, en général, pour s'affranchir du littéralisme. Je crois que si je recommençais une traduction aujourd'hui, je serais beaucoup plus littéraliste. Pour les raisons justement que je viens d'expliquer là. Non pas pour tomber dans les outrances de Chouraki ou de Darby, mais j'opterais plutôt, si vous voulez, quand cela est possible de le faire, pour le littéralisme. Maintenant, évidemment, une bonne traduction, il y a aussi un autre point qui joue, c'est qu'on ne doit pas sentir qu'il s'agit d'une traduction. C'est certain que quand vous lisez Darby, vous sentez que c'est une traduction. Alors ça, c'est le fin du fin, on ne sent pas la traduction. Par exemple, c'est le cas pour la synodale. Autre chose, la personnalité du traducteur ne doit pas interférer. Quand les traducteurs de la Taube, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, ont traduit la TOB, justement, c'était une gageure pour voir si les identités confessionnelles allaient avoir une influence sur la traduction. Or, comme ils ont été honnêtes, pas toujours d'une manière très heureuse, ça c'est autre chose, je disais tout à l'heure, mais ils ont été honnêtes, et les identités confessionnelles n'ont pas joué. Ce qui montre bien qu'une bonne traduction, c'est ça. La personnalité du traducteur ne joue pas. Autre point, elle doit faire la même impression sur l'esprit des lecteurs que l'original. Elle doit avoir le même impact. Dans le fond, c'est le but. Par exemple, quand Philips, toujours lui, traduit, n'est-ce pas, vous savez, le texte de Jésus dans le serment sur la montagne, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, car c'est la loi, c'est la Torah et les prophètes. » Alors Philippe traduit comme ça, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est l'essence de toute véritable religion. » Alors vous voyez, premièrement, ça élimine tout l'élément culturel juif, parce que que la loi et les prophètes, c'est quelque chose de très technique chez les juifs. Et Jésus était juif. Donc, si vous voulez, ça enlève le caractère juif des paroles de Jésus, et automatiquement, un juif qui lira le Nouveau Testament ne s'y reconnaîtra plus. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire, toute vraie religion ? Premièrement, Jésus prêchait-il une religion ? Deuxièmement, si le christianisme est une vraie religion, ou la vraie religion, y a-t-il, à côté du christianisme, des religions qui sont vraies aussi ? La traduction qui nous est proposée le laisserait entendre. C'est l'essence de toute vraie religion. C'est donc qu'il y a plus d'une religion qui est vraie. Et que toutes les religions qui suivent ce principe-là sont donc vraies. Par conséquent, Gandhi, qui avait exactement cette pensée, prêchait une religion qui était vraie. Vous voyez où on va ? C'est grave. Où va-t-on s'arrêter dans ces choses-là ? En fait, aucune traduction n'est une bonne traduction si elle n'est pas fidèle à l'original. Et quand nous prenons, par exemple, une version comme le français courant, qui volontairement limite son vocabulaire à je ne sais pas combien de mots usuels, plusieurs milliers de mots usuels, automatiquement, vous limitez aussi la portée de la Bible. Alors, pour conclure, justement, sur ces questions de traduction, il y a donc quatre types essentiels de traduction. Les traductions littérales, avec l'intérêt des traductions littérales, c'est que, si vous voulez, plus exactement ce qu'il faut faire quand on a affaire à quelque chose sur lequel on est obligé de s'écarter du littéralisme, c'est de mettre le littéralisme en note. C'est ce que nous avons fait, par exemple, dans la Colombe. On peut mettre aussi en note les différentes variantes des manuscrits. Bon, ça c'est vrai, ça peut être intéressant, ça peut éclairer le texte, parfois. Évidemment, expliquer les mots un peu techniques, le mammon, par exemple. C'est vrai que, je ne serais pas contre le fait que l'on traduise par la richesse. Ou alors, si on laisse le mammon, il faut à ce moment-là mettre obligatoirement une note en bas de page pour expliquer au lecteur qui ne connaît pas l'hébreu ce que c'est que le mammon, la richesse, etc. Bon, mettre en note, bien entendu, les distances, les poids, les mesures, les éléments d'histoire, de géographie, d'archéologie ou de choses semblables qui peuvent éclairer le texte. Mais par exemple, là où je serais extrêmement réticent, c'est sur les notes doctrinales. Bien sûr, ça, c'est le principe des versions catholiques. En principe, pour pouvoir recevoir l'imprimature, toute traduction catholique doit obligatoirement avoir des notes doctrinales qui conduisent le lecteur sur des rails dans la doctrine catholique. Si vous prenez Jérusalem, si vous prenez Ostie, si vous prenez enfin toutes les versions catholiques, en principe, vous avez ce genre de notes-là. Du côté protestant, il y a des Bibles qui répondent aussi à cette vision-là. Certains voulaient, quand nous avons traduit la Colombe, introduire des notes doctrinales. Et là, il y a eu une opposition totale de la majorité des membres du comité, dont j'étais d'ailleurs, n'est-ce pas ? Parce que nous ne pensons pas qu'il faille conditionner le lecteur. Le lecteur doit être conduit par le Saint-Esprit. Alors qu'on mette des notes pour éclairer le texte, pour le rendre plus clair, plus compréhensible, oui. Mais ensuite, des notes qui vont conduire les conclusions doctrinales du lecteur, non. Alors, si on veut faire des écrits doctrinaux, d'accord, c'est tout à fait légitime. Mais alors, qu'on le fasse en dehors de la Bible. Que l'on sache que ce n'est pas, si vous voulez, la lecture obligée de la Bible. Même si c'est finalement parfois quelque chose qui sort. Mais alors, si ça sort automatiquement, ce n'est pas la peine de le mettre en note. Si automatiquement on arrive à la conclusion qu'il faut que vous naissiez de nouveau, ce n'est pas la peine de le mettre en note, si c'est clair. Si on est obligé de mettre une note doctrinale, c'est parce que justement elle n'est pas claire. La doctrine n'est peut-être pas clairement exprimée dans le texte que l'on sollicite. Et si la doctrine ne se trouve pas clairement exprimée, c'est peut-être que justement la doctrine est discutable. Alors, n'en faisant pas une obligation pour le lecteur. C'est le cas aussi de la Scofield, par exemple, ou bien de certaines Bibles de Genève. Bon, la Scofield est très intéressante, bien sûr, pour pouvoir suivre les chaînes de référence, et choses comme ça, mais il est certain qu'elle est très conditionnante. Très, très conditionnante à ce niveau-là. Et doit être aussi manié avec une grande précaution à cause de ce phénomène et de cet élément, quoi. Donc, si vous voulez, il existe aussi les Bibles avec des références, la Scofield 6 à 7000. Ces références datent du travail des commentateurs du Moyen Âge. Il y a des citations. Il y a des passages parallèles, similaires dans l'idée, dans l'expression, des passages qui peuvent illustrer ou éclairer un autre texte, des références historiques, des noms-lieux, de personnes qu'on peut utiliser pour comparer des passages parallèles, pour suivre un thème, pour placer des citations dans leur contexte, pour mieux comprendre les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, pour replacer les discours dans leur contexte historique, les épîtres, etc., pour comprendre un certain nombre d'expressions. Donc tout ça, c'est tout à fait légitime. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des instruments de travail. Quelle sera donc la bonne traduction? La bonne traduction, souvent on me demande. Alors, finalement, quelle est la vraie traduction? Quelle est la bonne traduction? Ça, c'est une question toujours difficile à répondre, une question piège. Parce qu'il n'y a pas la bonne traduction, bien sûr. Comme si toute traduction est un compromis, automatiquement, il n'y a pas la bonne traduction. Alors, comme je disais la dernière fois, l'idéal serait que chacun connaisse parfaitement l'hébreu et le grec pour pouvoir lire dans l'original. Bon, c'est évidemment hors de question. Alors, quelle est la solution si on ne connaît pas les langues de la Bible? Eh bien, avoir une bonne traduction de base. Et là, quand même, ce n'est pas parce que je l'ai traduite. D'ailleurs, ils vont sortir une nouvelle version à laquelle je n'aurai pas travaillé. Mais je crois que, quand même, sur le marché français, pour l'heure, la colombe n'est pas si mal. Et comme Bible de base, Bible personnelle, c'est quand même, à mon avis, la meilleure. Même si elle a des imperfections, que je connais bien puisque j'y ai travaillé, mais c'est quand même la meilleure. Alors maintenant, si on veut aller plus loin, qu'à partir de cette version de base-là, qui sera la version de référence, on ait d'autres traductions. Soit des traductions très littérales, comme Darby, ou même comme Chouraki, qui vient d'être publié d'ailleurs en un seul volume. Soit des traductions comme la Français courant. Le Semeur, je l'exclus. Mais le Français courant, la Bible synodale, voire éventuellement des versions caduques, mais faites très attention, parce que nous, outre les notes doctrinales, les versions catholiques ont souvent aussi des notes modernistes, c'est-à-dire qui jettent le doute et le discrédit sur l'authenticité de la parole de Dieu. Alors ça, il faut faire très attention à ces Bibles-là, parce qu'elles peuvent semer vraiment le trouble pour des gens qui n'ont pas fait le tour des problèmes. Et créer un esprit de rationalisme, de doute, qui met en cause l'autorité de la parole de Dieu. Mais oui, avoir le français courant, la synodale, quoique le français courant, il y a des notes aussi, des notes un peu de ce type-là, il faut faire très attention aussi. Bon, la taube, elle a aussi ce problème, c'est qu'elle est très moderniste dans ses notes. Elle a des notes aussi doctrinales, à la fois on montre la doctrine catholique, la doctrine protestante, etc., bon, voire orthodoxe aussi d'ailleurs. Mais ce qui est dangereux dans la taupe, c'est surtout les notes. Alors, il existe une version sans notes aussi, sans notes doctrinales, du moins ne gardant que les notes. Alors ça peut être intéressant. Au niveau du Nouveau Testament, la taupe est très bien. Si vous pouvez avoir, par exemple, un Nouveau Testament taupe sans notes, ça, c'est intéressant d'avoir pour consulter. L'Ancien Testament est nettement moins bon. Nettement moins bon, vraisemblablement parce qu'il a été traduit par des traducteurs différents. Et ça se ressent. Il y a des très bonnes traductions, des livres qui sont très bien traduits, d'autres qui laissent beaucoup à désirer. Alors, si vous voulez vraiment vous lancer dans la taupe, à mon avis, un bon Nouveau Testament sans notes suffit amplement. Alors, ensuite, vous avez Bien sûr, le marché français, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Là, on a fait à peu près le tour. Autrement, on tombe dans les versions catholiques. Mais les versions catholiques ont ces inconvénients que j'ai cités. Maintenant, il y a un autre problème qui est en train d'apparaître aussi, c'est la question des apocryphes. Les apocryphes, c'est-à-dire les livres qui sont écrits en grec, uniquement les livres de l'Ancien Testament qui sont écrits en grec et qui se trouvent uniquement dans la version des Septante. Les catholiques les ont adoptés au Concile de Trente pour combattre essentiellement le protestantisme, parce qu'il y avait dans certains de ces livres-là, notamment le deuxième livre des Maccabées, des textes qui pouvaient laisser supposer, qui pouvaient laisser croire l'existence du purgatoire, donc des indulgences, donc enfin de toute la théologie catholique qui était contestée à cette époque-là par le Concile de Trente. Alors, dans une seule fournée, on a introduit tous ces livres-là au canon des Bibles catholiques, qu'on a appelé pour cette raison livres deutérocanoniques, c'est-à-dire appartenant à un deuxième canon, et les catholiques eux-mêmes reconnaissent que le degré d'inspiration est un peu moindre que les autres. Alors, vous voyez ce que ça, c'est vraiment la subtilité catholique, c'est pas inspiré, mais pas tout à fait au même niveau. Bon. Alors, les réformateurs, quand ils ont traduit la Bible, par exemple les vieilles Bibles françaises, comme la Bible d'Olivetan, contenaient les apocryphes, mais à part, et avec une note précisant qu'ils n'étaient pas inspirés. Pour une raison très simple, c'est que la Vulgate avait justement ce phénomène-là. Jérôme n'avait pas voulu traduire les apocryphes, parce qu'il ne les considérait pas comme inspirés. Il était très influencé par le judaïsme. Il avait étudié avec des rabbins pour traduire depuis l'hébreu. Et il avait donc refusé d'introduire les apocryphes. Puis, sur l'insistance du pape, il avait finalement traduit les apocryphes, mais il les avait mis à part, en précisant qu'ils n'étaient pas inspirés. Alors, donc, les premiers traducteurs de la Bible protestante ont repris ce procédé. Ils ont traduit les apocryphes de cette manière-là. Puis, avec le temps, on s'est dit, après tout, si ces livres-là ne sont pas inspirés, pourquoi les garder ? Et les versions, par exemple, qui datent à partir du 19e siècle, peut-être même un peu même avant, enfin, le 19e siècle en tout cas, et 20e siècle, toutes les versions protestantes étaient dépourvues d'apocryphes, comme le sont d'ailleurs. Les versions juives, par exemple, la version juive de l'Ancien Testament, la Bible du rabbinat, qui n'est pas dépourvue d'intérêt, hein, ça aussi on peut l'avoir, tout en sachant que, évidemment, les passages messianiques sont volontairement corrompus pour qu'on ne puisse pas les appliquer à Jésus, hein, ça c'est sûr, mais ceci mis à part, c'est une version qui peut être importante, elle n'est pas très chère en plus de ça, c'est aussi un intérêt qu'elle a. Donc, les Juifs ne mettaient pas les apocryphes, bien évidemment, et donc les protestants ont fait de même. Et puis, depuis l'œcuménisme, depuis la taube, depuis le français courant, etc., on s'est dit que, n'est-ce pas, eh bien, dans un esprit œcuménique, et puis peut-être aussi, disons les choses tout bas, mais disons-les quand même, peut-être pour des raisons commerciales, parce qu'après tout, il faut vendre aux catholiques, hein, c'est quand même un marché important. Eh bien, un certain nombre de versions protestantes modernes contiennent les apocryphes. C'est le cas du français courant, c'est le cas de la taupe, bien sûr, y compris de la taupe sans note. Et puis, Kuhn n'est pas allé jusque-là quand même, il est resté évangélique dans ce domaine. Mais de plus en plus de versions protestantes incluent les apocryphes aussi, donc en précisant parfois que les protestants ne les reconnaissent pas comme inspirés. Mais c'est très, très ennuyeux quand même. Parce que, automatiquement, si vous voulez, au bout d'un temps, le lecteur ne fera plus la différence. Le lecteur tombera aussi bien sur un passage de Tobie que du deuxième livre des Maccabées, etc. Et dans son esprit, la confusion se fera. Alors, ça, je crois que là, nous serions très très fermes à ce niveau-là et rester dans la vision traditionnelle. Bon, enfin, il y a les vieilles versions, bien sûr. La version seconde, maintenant, qui date, elle est encore diffusée. Elle est diffusée dans bien des endroits, et beaucoup la gardent parce qu'ils y sont habitués, ils l'ont sucé avec le lait de leur mère. Par conséquent, c'est un peu difficile pour eux de s'en défaire, c'est sentimental. Bon, je suis certain qu'elle est complètement dépassée la seconde aujourd'hui, mais enfin, bon, on peut la voir pour consultation aussi, hein, elle n'est pas mauvaise, loin s'en faut. On peut avoir aussi des vieilles versions d'Olivetan et autres, bien sûr, c'est intéressant de les consulter, tout en sachant bien sûr qu'elles seront aussi en vieux français, quoi. Donc, si vous voulez, voilà en gros ce qu'on peut dire sur les traductions de la Bible. Alors, très rapidement, n'est-ce pas, maintenant la Bible, ses divisions, bon, en chapitres, versets, etc., tout ça, ça date du Moyen-Âge. Hein. Avant, les Bibles étaient divisées en Parashot et Haftarot. Il faut aussi savoir que l'ordre de la Bible hébraïque est différent de celui des Bibles, des traductions. Par exemple, les traductions françaises, la plupart d'entre elles du moins, suivent l'ordre de la version des Septante, la version grecque, dans l'ordre des livres de la Bible. Et alors, on classe le Pentateuque, ce qu'on appelle les livres historiques, c'est-à-dire Josué, Juges, les livres de Samuel, les livres des rois, puis les livres des chroniques, les livres d'Ezra et les livres de Néhémie, livre d'Esther, ça termine les livres historiques. Puis ensuite, Job, Psaume et Proverbe, les petits livres Cantiques des Cantiques, Ecclésiaste, etc. Puis ensuite, les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et puis les 12 petits prophètes. Ça, c'est l'ordre de la version des Septante. La Bible hébraïque a un autre ordre. La Bible comprend la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Ensuite, ce qu'on appelle les premiers prophètes, c'est-à-dire Josué juge les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois, et les livres des chroniques ne sont pas considérés comme faisant partie des premiers prophètes. Là, ça s'arrête là. Et immédiatement après, viennent les derniers prophètes, c'est-à-dire nous appelons nous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, etc. Pas Daniel, qui n'est pas considéré comme un prophète, mais comme un écrit. Et puis ensuite, seulement après après Malachie, interviennent les écrits. Et les écrits, ce qu'on appelle les écrits, Ktuvim, c'est Job, Psaume, Proverbe, les 5 rouleaux, Esther, Ruth, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et puis j'en oublie un, puis Lamentation de Jérémie. Et puis ensuite, Daniel, les 2 Ezra, Néhémie, et puis ça se termine par les 2 livres des Chroniques, qui sont considérés comme faisant partie des écrits. Ça, cet ordre-là, Panine a montré que c'était certainement l'ordre le plus valable parce qu'il respectait une structure numérique qui disparaît quand on prend la version des Septante. C'est peut-être une des raisons, ou du moins, de plus en plus, aujourd'hui, 2 versions modernes suivent cet ordre de la Bible hébraïque. Et à mon avis, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de raison de coller à la version des Septante. Par exemple, c'est ce que fait Kuhn, manifestement, est un fanatique de la version des Septante, et il garde par exemple les mots avec leur forme grecque et non pas avec leur forme hébraïque, comme le font les catholiques en général. Par exemple, Nebuchadnezzar devient Nabucodonosor, Jaffa devient Jopé, ou des choses comme ça, quoi. Alors, ça, c'est pas innocent, c'est un anti-judaïsme latent qui apparaît derrière des choses comme ça, comme d'ailleurs le fait d'avoir voulu garder l'ordre de la Bible grecque et non pas de la Bible hébraïque. Alors, bien entendu, ça déroute un peu. Par exemple, si vous prenez le français courant, si vous prenez la Taube, ce sont des Bibles qui ont suivi justement l'ordre juif, l'ordre hébreu de la Bible et non pas l'ordre grec. Alors, en général, ils mettent une espèce de liste à la fin pour qu'on s'y retrouve quand même à peu près facilement. Voilà, si vous voulez, en gros, ce que l'on peut dire à ce niveau-là. C'est de 1248 que date la division en chapitres, ce qui vient du cardinal Hugo de Saint-Caro et de Stephen Langton, qui était archevêque de Canterbury. Bien sûr, l'intérêt de cette division-là, c'est qu'on s'y retrouve facilement. Mais parfois, ça a des conséquences négatives parce que ça obscurcit, ça coupe un texte. Un texte qui parfois est une unité. Par exemple, vous arrivez à la fin d'un chapitre et en fait, le chapitre suivant, ça continue. C'est la même pensée qui continue. Par exemple, si vous prenez le premier chapitre de la Genèse, il est certain que la fin du premier chapitre de la Genèse coupe et qu'en fin de compte, les premiers versets du chapitre 2 appartiennent à la même unité littéraire que le chapitre 1er. C'est pourquoi, par exemple, quand on travaille sur les codes, il faut faire très attention à ça. Faire attention aussi aux sous-titres. Bon, l'introduction de sous-titres souvent aux têtes de chapitre allège le texte, le rend plus facile à lire. Seulement, parfois, ça oriente aussi la lecture. Et ça coupe parfois un texte, parfois à un très mauvais endroit aussi, n'est-ce pas ? Et puis, ça oriente la lecture parce que, par exemple, quand vous lisez dans les malédictions de Jérémie, où vous trouvez les crimes des Juifs, et puis ensuite, le chapitre suivant, la bénédiction qui va venir sur Israël, la gloire de l'Église, bon, il est bien évident que là, ça vous oriente immédiatement sur une certaine piste. Alors, il faut faire très attention. Je pense à ce prédicateur gitan qui prêchait sur les sous-titres. L'extrême, bien sûr, mais on peut parfois faire un peu cette erreur aussi sans trop s'en rendre compte. Alors, les cartes aussi. Bon, il faut faire attention, les cartes ne sont pas toujours extra. mieux vaut faire appel à un bon atlas biblique. Hein. Souvent, il faut les remettre à jour aussi. Hein. Donc, si vous voulez, voilà en gros ce qu'on peut dire sur les traductions de la Bible et sur la manière de s'y repérer dans un petit peu cette jungle. Ça devient vraiment un peu une jungle aujourd'hui dans toutes ces choses-là. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
Cette page au chapitre là, de, par exemple, de la langue, je crois qu'il est différent de, celui, enfin, de la Bible grecque, il est différent de celui de la, l'ancienne de seconde.
Ah non, je pense pas.
Ben, certains versets,
oui, oui, par exemple,
ah, exact.
Dans Joël.
Oui, dans Joël et dans Malachie, oui.
C'est, oui, ça,
oui.
Ça, c'est
oui, ça, on a suivi la Bible grecque là.
Et ouais. Donc. Pourquoi c'est différent, quoi ?
Parce que, oui, la division des septante est différente. Mmh. Ouais.
Mmh. Enfin, pour éviter que les chapitres coupent, là, les sous-titres ne correspondent pas toujours au chapitre. Vous savez, pour, on voit un chapitre...
Dans la colombe
ben, dans la colombe, oui, peut-être oui. Dans le second aussi, je ne sais pas. Oui. Mais dans la colombe, peut-être. Si vous voulez, on voit, puis ça continue le chapitre. Il y a le chapitre, puis ça continue comme si c'était bien à suivre.
Ah oui.
Il y a un sous-titre,
oui.
Donc ça rééquilibre.
Oui, oui. Oui, ça c'est bien.
Ça, c'est...
Oui.
On voit bien quoi, que les chapitres, quelquefois, ne correspondent pas bien aux
habits
coupés.
Oui,
oui, oui. Ça rééquilibre toujours moins, quoi, selon
oui.
Les idées des gens.
Oui. Est-ce que l'introduction de chapitre correspond aussi à l'introduction des signes masorétiques ?
Pardon ?
Est-ce que ça correspond à l'introduction à l'époque ? Correspond aussi à l'époque de l'introduction des
signes ? Non. Non, non.
Ah,
les signes masorétiques ?
Ouais.
Les signes masorétiques se trouvent dans l'hébreu, automatiquement, pas du tout dans les traductions. Ils se retrouvent pas.
Non, mais je veux dire en hébreu, dans la version hébraïque.
Ah, les signes masorétiques datent alors là du 5e siècle. Le travail des masorètes, c'est le 5e siècle.
Mais le découpage en chapitre est effectué à partir de quand alors de...
Le découpage, il date du Moyen-Âge.
Mais date hébraïque ou...
Ah ben si, oui, la version hébraïque, oui. Oui, oui. Et on a fait la même chose pour le grec, avec quelques variantes, comme disait Jordan il y a un instant. Mais oui, en principe, ça s'est fait au niveau de la Bible hébraïque, mais pas de la Bible qui est lue dans la synagogue. La Torah qui est lue dans la synagogue ne comprend aucun signe masorétique. Hein, elle est sur rouleau d'abord, et elle ne contient aucune voyelle, aucun signe masorétique. Et c'est uniquement le texte original tel qu'il était au départ, c'est-à-dire rien qu'avec les consonnes.
Et ça correspond à quoi les signes masorétiques ?
Les signes masorétiques, c'est les points voyelles, essentiellement. Mm-hmm. Plus les théamimes, ce qu'on appelle les théamimes, c'est-à-dire les petites virgules qu'il y a qui sont là pour la cantillation. Ce n'est pas des notes de musique, mais on sait qu'à tel endroit, on doit élever la voix, on doit baisser la voix, on doit s'arrêter, ou on doit. C'est des choses comme ça, quoi.
Il n'y avait pas les chapitres, il n'y avait rien. C'était...
Mais comme aujourd'hui dans la synagogue, non, il n'y a rien.
Tout est à suivre.
Tout est à suivre. Et au début, il n'y a même pas de séparation entre les mots.
J'ai retrouvé. Dialoter, on arrive.
Ah, par contre, dans la synagogue, il y a les séparations entre les parachotes. Ça égale.
C'est-à-dire, c'est les.
Les parachotes, parachats, par exemple, Bereshit.
Ça s'est toujours été comme ça ou quand est-ce que ça s'est décidé ?
Je pense que non, ça n'a pas du tout toujours été comme ça, mais enfin, ça, c'est quand même très ancien. C'est quand même très ancien. Oui ?
Avec l'introduction de pastorelle de plus en plus dans le milieu protestant, est-ce que vous ne croyez pas que des bibles orientées à ce moment-là vont entrer à fond ?
Ah ben, bien sûr que si.
Est-ce
bien sûr que oui. Ah ben, évidemment, évidemment, évidemment. C'est pour ça les traductions inclusives, ça va être la catastrophe totale. Et alors, on arrivera peut-être à un moment où on ne trouvera plus de Bible correcte sur le marché. Il faudra envisager de faire nos propres traductions. Ça, on peut... C'est pas exclure, hein, ce processus-là. C'est pas exclure du tout. Hein.
Là, ça risque d'être la déferlante.
Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Bien, autre chose ?
pratiquement, comment ça se passe entre la traduction?
Autrefois, la traduction se faisait, c'était un bonhomme seul. Par exemple, Luther a traduit tout seul. Il a pris la Genèse et puis il a terminé à l'Apocalypse. Hein. Bon, Second, Hostie, les gens ont fait comme ça. Hein. On a abandonné ce principe depuis quelques dizaines d'années maintenant. Parce qu'effectivement, quand un homme traduit seul, il y a plus de chances de se tromper. Alors, il y a des équipes de traduction maintenant, en général. Et alors, les équipes de traduction, qui sont rassemblées en comité. Et alors, les traducteurs se partagent le travail, ce qui permet d'ailleurs d'alléger le travail, parce que c'est un boulot considérable. Et puis ensuite, se corrigent les uns les autres, s'échangent. Ils échangent ce qu'ils ont fait. Et alors, il y a différents comités de traduction. Il y a un comité de traduction, par exemple, sur ceux qui travaillent sur des choses semblables, par exemple sur l'Ancien Testament. Il y a un comité pour ceux qui travaillent sur le Nouveau Testament, ceux qui travaillent sur les prophètes, ou sur ceux qui travaillent sur les psaumes, enfin, etc. Quoi. Et là, donc, il y a ensuite une mise en commun. Quand on n'est pas d'accord, eh bien, il y a des discussions, parfois véhémentes. Hein, véhémentes. Et puis, ensuite, l'ensemble du comité se rassemble et pour discuter aussi les problèmes litigieux, quoi, les problèmes qui n'ont pas été résolus dans les différents sous-comités. Quoi. Et puis, en général, il y a un arbitre qui tranche quand même, parce que autrement.
Ouais. C'est comme ça aussi que fait M.
Je pense que c'est comme ça qu'il a dû faire, oui. Je pense qu'il avait un comité avec lui, oui. Bon, ben on va en rester là pour ce soir alors.